Ottawa, Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, Claire Morin-Gibourg avec vous. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Au sommaire ce soir. Au Mali, le président Ibeka a été renversé par l'armée. Lui et son premier ministre ont été arrêtés. Nos reporters sur place feront le point sur la situation. Également à la une de l'actualité, l'ex-président mauritanien Aziz est toujours entendu par la police à Nouakchott. Ici, aux États-Unis, les démocrates ont appelé à l'unité hier soir lors de l'ouverture de la première convention virtuelle du parti. Également, dans un peu plus de 10 minutes, l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Mali, le président Ibrahim Boubacar Keïta et son premier ministre Boubou Cissé ont été arrêtés en fin d'après-midi à Bamako par des militaires en révolte. Ils ont été emmenés au camp militaire de Kati. Nous faisons le point avec notre correspondant sur place, Kassim Traoré.
Tout est parti de Kati, comme en mars 2012, avec des coups de feu en l'air. Bamako et Kati ont été paralysés. Tous les hauts gradés de l'armée malienne en fonction ont été arrêtés, en plus de personnalités politiques. Dans la foulée de la contestation internationale de cette mutinerie, les militaires ont enclenché des discussions avec la garde rapprochée du président Ibeka. C'est face à l'échec de ces échanges qu'ils ont été obligés de conduire le président et son premier ministre à Kati.
Le sentiment qui m'anime aujourd'hui est de très profonde reconnaissance vis-à-vis du peuple qui, depuis le 5 juin, est là pour faire démissionner le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Nous, on est contents aujourd'hui parce que l'armée a pris ses responsabilités et a dégagé ce régime mafieux, incompétent et incapable.
Au monument de l'indépendance, c'était la joie. Et les jeunes trouvent que le régime n'a rien fait pour l'armée malienne. Se battant depuis le 5 juin 2020 aux côtés du M5 RFP.
Depuis le jour où Ibeka est sorti, que le président de la République est sorti pour l'impurité, il y a des surpartisations au niveau de l'État, il y a des surpartisations sur l'argent qui a été dépensé. Nous, on ne peut plus se permettre de croire à ce genre-là. Notre armée est sous-équipée. Et l'argent que les contribuables sortent pour faire équiper c'est cette armée-là, l'argent est détourné à des fins personnelles. On ne peut pas s'asseoir à regarder. C'est pour cela, quelle que soit la pression de la communauté internationale.
C'est battant depuis le 5 juin 2020 aux côtés du M5 RFP, l'ancien Mohamed Kone ne cache pas sa joie.
Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le peuple malien, alors pour le M5 RFP. Aujourd'hui, on est content pour libérer notre pays. Le pays était dans la crise, alors je peux dire aujourd'hui que c'est une première sortie de crise. Si le président est arrêté, je ne peux que me réjouir.
C'est Louis Djakité, militant du M5 RFP. La situation préoccupante au centre et nord du pays ne doit pas être oubliée par les militaires qui viennent de faire le coup d'État.
Les civils et par les militaires.
Gabriel Tchénou, les militaires ne doivent pas faire comme ceux de 2012.
Et nous leur demandons de tout mettre en œuvre pour s'entendre avec les politiques dans le but de mettre en place un comité de gestion des affaires publiques de l'État et qu'ils fassent extrêmement attention à ce que les verrous ne tombent pas comme nous l'avons vu en 2012. Nous demandons aux militaires de tout mettre en œuvre pour que la continuité de l'État soit assurée et que dès demain ou après-demain, que les services publics de l'État reprennent. Voilà ce que nous demandons à ces, aux militaires qui nous ont épargné vraiment une diffusion de sang dans la quête de mettre le président de la République de ses fonctions.
L'arrestation du président Ibeka et son premier ministre est bien appréciée à Bamako en entendant les réactions de la communauté internationale. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Ce matin donc, des soldats maliens ont tiré des coups de feu en l'air pour une raison inconnue dans le grand camp militaire de Kati, dans la proche banlieue de Bamako. Le récit de Lamissa Sangaré, notre correspondant à Kati.
C'est entre 7h30 et 8h du matin que les premiers coups de feu ont été entendus. Des militaires du camp de Kati tiraient en l'air. La nouvelle a fait le tour de la ville. Les femmes sont retournées précipitamment du marché. Les commerces et autres activités économiques ont été arrêtées. Les habitants se sont enfermés chez eux. Tous les accès du camp militaire furent bloqués par des militaires en armes. Dans les environs de 10h30, Des informations ont commencé à circuler sur l'arrestation de certains chefs militaires et des personnalités civiles. Des informations toujours difficiles à vérifier. Dans la ville de Bamako aussi, c'est la panique générale pour l'instant. Plusieurs commerces et certains services publics ont commencé à fermer. Des Kati, Lamissa Sangaré pour la VOA Afrique.
Le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a condamné énergiquement l'arrestation du président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, par des militaires en révolte. Monsieur Mahamat a ajouté appeler la CEDEAO, les Nations Unies et toute la communauté internationale à conjuguer efficacement leurs efforts pour s'opposer à tout recours à la force pour la sortie de la crise politique au Mali.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Mauritanie, l'ancien président Mohamed Ould Abdelaziz, soupçonné de mauvaise gestion et de détournement, est entendu par la police à Nouakchott. Yacouba Ouedraogo.
Mohamed Ould Abdelaziz a dormi à la direction générale de la sûreté nationale, où il se trouve toujours sans la présence de son avocat, a déclaré Tayoula Aïda, membre de son collectif de défense. Sur convocation de la police, l'ancien chef de l'État s'est rendu hier à la sûreté nationale pour répondre des présomptions de mauvaise gouvernance et de détournement de biens publics. Une commission parlementaire chargée en janvier de faire la lumière sur plusieurs dossiers pendant ces années à la tête de l'État a transmis début août son rapport à la justice. Parmi ces dossiers, la gestion des revenus pétroliers, la vente du domaine de l'État, la liquidation d'une société publique qui assurait l'approvisionnement en denrées alimentaires, les activités d'une société chinoise de pêche. Les députés ont ensuite voté fin juillet une loi instituant une haute cour de justice compétente pour juger le chef de l'État et les ministres en cas de haute trahison. Le président Aziz a dirigé la Mauritanie de 2008 à 2019. Son successeur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani a été son chef de cabinet et ministre de la Défense.
Au Burkina Faso, 22 partis et formations politiques d'opposition ont signé aujourd'hui à Ouagadougou un accord devant leur permettre d'offrir une alternance à la tête du pays lors de la présidentielle du 22 novembre. Les signataires ont dénoncé la mauvaise gouvernance politique et sécuritaire dans le pays et veulent un projet de conquête et de gestion du pouvoir, selon Adama Sosso, vice-président de l'Union pour le Progrès et le Changement. Candidat de l'UPC à la présidentielle, le chef de file de l'opposition, Zéphira Diabré, a salué un accord historique qui permettra d'écrire un nouveau chapitre de notre histoire, selon ses mots. En République démocratique du Congo, les dépenses de la présidence ont dépassé en juillet les prévisions budgétaires du troisième trimestre en période de contraction des activités économiques. L'opposition a fait part de son inquiétude. La RDC est confrontée à des défis sanitaires et sécuritaires, la pandémie du coronavirus et l'armée qui lutte contre des dizaines de groupes armés à l'est du pays. Pandémie du coronavirus dans le monde. Au Maroc, plusieurs plages proches de Rabat ont été fermées aujourd'hui avec mise en place de barrages routiers et horaires restreints des commerces. L'Afrique du Sud a levé hier soir à minuit les restrictions anti-Covid imposées depuis mars dernier. Les ventes de cigarettes sont à nouveau autorisées, les bars peuvent réouvrir et les restaurants peuvent de nouveau servir de l'alcool. Face à des signes inquiétants de résurgence du coronavirus, qui selon l'OMS est de plus en plus propagé par les jeunes, la France va imposer le port du masque en entreprise et la Corée du Sud renforce les mesures de fermeture dans la région de Séoul. Les autorités libanaises, elles, ont décrété un reconfinement total d'une durée de plus de 2 semaines. Les négociations entre Londres et l'Union européenne pour trouver un accord sur leurs relations post-Brexit reprennent ce soir à Bruxelles avec un dîner entre les chefs négociateurs Michel Barnier et David Frost. Après une précédente session infructueuse, les équipes de négociation se retrouvent mercredi à Bruxelles pour une 7e session qui se terminera vendredi. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'essentiel de l'actualité économique en Afrique et dans le monde, c'est la Minute Éco avec John Lyndon.
96% des entreprises camerounaises ont subi négativement les effets de la pandémie de coronavirus, selon une étude réalisée par le GCAM, le groupement interpatronal du Cameroun. Les filières tomates, hôtellerie, restauration sont les plus touchées, selon cette étude, réalisée auprès de 250 entreprises entre avril et juin 2020. Le Nigeria devrait peut-être attendre jusqu'au mois d'octobre avant de recevoir la première tranche de 1,5 milliard de dollars, initialement prévue pour août par la Banque mondiale, qui invoque des lenteurs dans les réformes. Le prêt d'un montant global de 3 milliards de dollars est subordonné aux réformes exigeant l'uniformisation du taux de change unifié et flexible, les subventions de carburant et les tarifs d'électricité. Le ministère nigérian des Finances lie le retard au report du conseil d'administration de la Banque mondiale qui devait se tenir le 6 août dernier. La Chine a répliqué ce mardi à l'extension des sanctions visant Huawei et 38 de ses filiales en accusant les États-Unis d'abus de pouvoir. Les contraintes imposées à Huawei ne l'ont toutefois pas empêché de devenir au deuxième trimestre le premier vendeur mondial de smartphones, détrônant ainsi le sud-coréen Samsung avec quelque 55,8 millions d'appareils écoulés.
Et maintenant, la page sport présentée ce soir par Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le PSG d'Idrissa Gueye et d'Éric Maxime Choupo-Moting affronte Leipzig en demi-finale de la Ligue des Champions ce soir. Le PSG se passe de son gardien costaricain Keylor Navas blessé, mais enregistre les retours d'Arel Di Maria, suspendu contre Bergame, et Kylian Mbappé enfin au top de sa forme. En Europa League, l'Inter Milan, grâce à son duo offensif Lautaro-Lukaku, a dominé le Shakhtar Donetsk en demi-finale de la Ligue Europa 5-0 pour décrocher sa première finale européenne. Depuis 10 ans, le club italien défiera vendredi le FC Séville du portier marocain Yacine Bono dans le stade sans public de Düsseldorf. Et puis, la confirmation de 3 nouveaux cas de joueurs positifs au Covid-19 à l'Olympique de Marseille a entraîné le report du match d'ouverture de la Ligue 1 vendredi contre Saint-Étienne. Selon le quotidien régional La Provence, il s'agirait du gardien de but olympien Steve Mandanda et des deux milieux de terrain Maxime Lopez et Valentin Rongier, une information que le club n'a pas confirmée ni démentie. Pour le premier cas annoncé jeudi dernier, la presse a livré le nom de Jordan Amavi. Ce coup soulève de nombreuses questions sur la tenue harmonieuse du championnat de France qui va finalement redémarrer samedi. En Espagne, Eric Abidal a été remercié de son poste de directeur sportif du FC Barcelone. Cette décision intervient 3 jours après la terrible débâcle du club catalan 8-2 contre le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des Champions et au lendemain de la destitution de Quique Setién comme entraîneur du Barça. Ancien latéral gauche international français et ex-joueur du FC Barcelone de 2007 à 2013, Eric Abidal avait été nommé directeur sportif du club Blaugrana en juin 2018. Au Burkina Faso, le renouvellement des fédérations sportives a commencé et les présidents des fédérations de cyclisme, boxe et course hippique sont connus. De Ouagadougou, notre correspondant Kader Traoré fait le point.
Au niveau du cyclisme, c'est Ignace Amédé Bérouadougou qui va conduire la destinée de la petite reine.
J'ai bien et belle dit et je répète, les promesses que j'ai dit seraient bien et belles effectives. J'ai les moyens pour le faire.
Quant au noble art, les boxeurs burkinabés ont confié les clés du ring à Jérémy Bouda, un opérateur économique.
Nous voulons qu'il y ait des infrastructures. La boxe internationale y est aussi. Nous allons mettre le paquet pour qu'on puisse parler de Burkina comme on le parlait avant.
Au niveau de l'hippisme, c'est Rachid Nakulma qui a promis à ses pairs de doter le pays d'hippodrome pour la pratique de sport équestre.
Nous allons travailler de telle sorte que nous puissions quand même avoir un hippodrome qui est apte à pratiquer le sport équestre sans problème.
Ces élections sportives vont s'achever le 23 août prochain avec à la clé cette la Fédération Burkinabé de football. 2 candidats sont au coup d'apoule, Amadou Traoré et Lazare Bansé. Ouagadougou, Kader Traoré pour VOA Afrique.
Merci Yacouba. Écoutez VOA Afrique, désormais partout en Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans tous les pays francophones.
Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VOA Afrique, dans tout le continent africain, sur la chaîne 555 de Canal+.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes bien à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Claire Morin-Dubourg, toujours avec vous. Place au dossier du jour. En Mauritanie, Mohamed Ould Abdelaziz a été mis en garde à vue après son audition par la police des crimes économiques dans le cadre des conclusions de l'enquête parlementaire qui révèle corruption et mal gouvernance sous son règne. Le reportage de notre correspondant à Nouakchott, Mohamed Diop.
Selon la défense de l'ex-président, il y a violation de procédure. Maître Mohamed El Cheddou.
Son Excellence, l'ancien président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, a reçu à 16h sa convocation par la Direction générale de la Sûreté nationale pour déferment à 17h30, sans respect des délais juridiques. Nous considérons donc que notre client est en détention arbitraire et privé de l'assistance de sa défense.
Mais le journaliste et analyste politique Ahmed Mohamed Moustapha estime que l'arrestation de l'ex-homme fort de Mauritanie était prévisible.
Il est clair depuis quelques jours que l'ex-président et ses soutiens veulent déplacer le combat vers l'arène politique et médiatique, alors que le pouvoir veut que la lutte contre la corruption reste juridique et suivant des procédures légales.
En effet, Ould Abdelaziz est désigné comme premier responsable des irrégularités soulignées dans le rapport de la commission d'enquête parlementaire, selon l'ex-porte-parole de la commission, Lemrabot Benahi, qui a rejoint le nouveau gouvernement comme ministre de la Culture, de l'Artisanat et des Relations avec le Parlement. Il s'agit entre autres de mal-gouvernance, mauvaise gestion des sociétés publiques, détournement de recettes pétrolières et de vente illégale de domaines publics. 24 heures avant son arrestation, l'ex-président allait tenir une conférence de presse pour dénoncer ce qu'il appelle un acharnement contre sa personne et sa famille. Un communiqué a été même diffusé. De ce fait, Ahmed Mohamed Moustapha se demande
si la détention de l'ex-président va durer ou vont-ils simplement empêcher la conférence de presse, puis suivre la procédure normale, à savoir entendre Ould Abdelaziz en dernier dans le cadre de l'enquête parlementaire pour qu'il puisse apporter des éclaircissements sur d'autres questions en sa qualité d'ex-premier responsable du pays.
En tout cas, l'étau commençait déjà à se resserrer autour de l'ex-président ces derniers jours. Des personnes en lien financier supposé avec lui ont été arrêtées. Et la presse locale rapporte la saisie à titre conservatoire de près de 200 véhicules lui appartenant ou à son gendre. Mohamed Diop pour VOA Afrique, Nouakchott.
Sécuritaire se dégrade de plus en plus au Burkina. Assassinats ciblés, attaques récurrentes perpétrées par des hommes armés non identifiés. Le pays est cerné par les groupes terroristes. Alors que les zones qui bordaient les frontières maliennes étaient les plus dangereuses, la France vient de placer l'ensemble de la région de l'Est et les territoires frontaliers du Niger, du Bénin et du Togo comme zones rouges déconseillées à ses ressortissants. Le reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Kader Traoré.
La situation sécuritaire au Burkina Faso semble à son pire niveau depuis le début des attaques terroristes en 2016. Les attaques armées sont quasi quotidiennes. Le climat d'insécurité fait que la destination Burkina Faso est déconseillée par les chancelleries internationales, notamment la France.
Ce n'est pas la première fois d'ailleurs que cela est présenté.
Paul Mickey Rwamba est journaliste et rédacteur en chef de la radio Ouara FM.
Il y a quelques mois, cela va susciter une vive réaction de la part de l'opinion publique burkinabé. Mais moi, je fais remarquer également que ce n'est pas un message qui s'adresse prioritairement aux Burkinabés. C'est un message qui s'adresse, de mon point de vue, aux Français. C'est la France qui communique avec les Français pour déconseiller la destination Burkina Faso. Sinon, effectivement, malgré les attaques terroristes ici au Burkina, il y a de la vie. Les gens se lèvent tous les matins à aller travailler.
Pourtant, face à cette insécurité, ce sont les populations qui payent le lourd tribut. Malheureusement, les réponses données par le gouvernement ne les rassurent pas. Siaka Koulibaly, analyste politique.
C'est une réalité bien connue de tous que le Burkina Faso est dans une spirale d'insécurité grandissante. On constate également que les autorités, notamment celles de la défense et de la sécurité, faisaient beaucoup d'interventions publiques pour expliquer les stratégies qui sont mises en place afin de résorber la spirale terroriste. Mais de plus en plus, les attaques dues à ces groupes-là sont devenues un trait banal et passent presque inaperçues. Et les populations se demandent quand est-ce que ces services pourront venir à bout des groupes terroristes et pacifier le pays.
Aux attaques terroristes se sont ajoutés des conflits intercommunautaires où l'on s'en prend aux Peuls comme des terroristes, amalgame régulièrement dénoncé par les organisations des droits de l'homme. Mais la stigmatisation persiste selon les observateurs.
Comment ça se fait que les jeunes Peuls qui veulent s'engager comme volontaires, on refuse de les recruter pour l'unique raison qu'ils sont Peuls?
Mélégué Maurice Traoré, historien, ancien ministre et homme politique.
Vous ne pouvez pas juste suspecter quelqu'un à foutre la barre de son ethnie, c'est grave. D'ailleurs, ces jeunes Peuls, s'ils sont décidés à aller en justice, vous aurez des problèmes parce que c'est de la ségrégation.
Vigilance rouge ou pas, le Burkina Faso peine à sécuriser son territoire et la colère monte de plus en plus sur les réseaux sociaux où beaucoup demandent au gouvernement de faire mieux que de proférer des condamnations à chaque attaque armée. Kader Traoré, Ouagadougou pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou sur le 102.4 FM.
Abdourahmane Dia avec vous, cette semaine dans Washington Forum, c'est parti pour les conventions politiques marquant la dernière ligne droite de la campagne pour la présidentielle du 3 novembre aux États-Unis. Joe Biden acceptera cette semaine la nomination du Parti démocrate lors d'une convention essentiellement virtuelle à cause de la pandémie de COVID-19. La semaine prochaine, le président Trump sera à son tour officiellement investi par les républicains. Nous ferons le point sur la politique américaine à un peu plus de deux mois de la présidentielle. Ce sera ce jeudi 20 août à 19h temps universel sur VOA Afrique, VOA Afrique.com.
Les démocrates ont appelé à l'unité lundi lors de l'ouverture de la première convention virtuelle du parti. Ils valideront jeudi la nomination de Joe Biden et de sa colistière Kamala Harris pour faire face à Donald Trump et Mike Pence à la présidentielle du 3 novembre. Mike O'Sullivan revient sur la première des quatre soirées organisées sur les réseaux sociaux en raison de la pandémie du Covid-19. Le récit est de Nathalie Barge.
C'est l'actrice Eva Longoria qui a donné le coup d'envoi de la première convention démocrate américaine à se dérouler entièrement en ligne.
Tous les quatre ans, nous nous rassemblons pour réaffirmer notre démocratie. Cette année, nous sommes venus la sauver.
Lors de cette première soirée virtuelle, les intervenants sont revenus sur les tensions raciales qui ont divisé le pays. Muriel Bowser, maire de Washington.
C'est ici qu'il y a quelques semaines à peine, les Américains ont mis des masques et ont protesté en toute sécurité et pacifiquement contre la mort de George Floyd.
À cause de la pandémie, la plupart des témoignages ont été préenregistrés, y compris celui de l'ancienne première dame, Michelle Obama.
I know Joe.
Je connais Joe. C'est un homme profondément décent, guidé par la foi. C'était un formidable vice-président. Il sait qu'il faut sauver l'économie, repousser la pandémie et diriger notre pays.
Le sénateur du Vermont, Bernie Sanders, ancien rival de Joe Biden, a appelé ses soutiens progressistes à se rallier à la campagne démocrate.
Our great nation is now living in an unprecedented moment.
Nous sommes confrontés à la pire crise de santé publique en 100 ans et au pire effondrement économique depuis la Grande Dépression. Nous sommes confrontés au racisme systématique et à l'énorme menace du changement climatique pour notre planète. Et au milieu de tout cela, nous avons un président qui est non seulement incapable de faire face à ces crises, mais qui nous conduit sur la voie de l'autoritarisme.
Joe Biden bénéficie également du soutien de certains républicains modérés, notamment celui de l'ancien gouverneur de l'Ohio, John Kasich.
I'm a lifelong Republican.
Je suis un républicain de longue date, mais cet attachement occupe la deuxième place face à ma responsabilité envers mon pays. C'est pourquoi j'ai choisi de participer à cette convention.
La convention démocrate s'achèvera jeudi avec le discours de Joe Biden, qui acceptera officiellement la nomination de son parti pour la présidentielle du 3 novembre. La convention républicaine devait s'ouvrir le 24 août à Charlotte en Caroline du Nord, mais a été reportée. Elle a été programmée pour Jacksonville en Floride, mais à cause du coronavirus, le président sortant Donald Trump a confirmé hier qu'il accepterait formellement la nomination de son parti en direct depuis la Maison Blanche.
Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à Michel Joseph et Georges Léonard Sagno qui ont permis la réalisation de ce journal. Au micro, Claire Morin-Gibourg. Ainsi va le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, un seul site internet, voafrique.com. Sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Vous écoutez Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. À Bamako sur 102 FM, Raga FM Kinshasa, Soleil FM Conakry, 92.3 FM, Radio Wentanga, Wayigouya Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique.
Ici Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Cela fait presque 50 ans que les États-Unis ont entamé un dialogue ayant conduit à l'établissement des relations avec la Chine. Nous imaginions que l'engagement avec la Chine produirait un avenir avec des brillantes promesses de reconnaissance mutuelle et de coopération, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo. Ces promesses se sont avérées fausses. Au fil des décennies, la prospérité accrue n'a pas conduit à un renforcement des libertés en Chine ou réduit la menace chinoise à l'extérieur. Le Parti communiste chinois a abusé des droits humains du peuple chinois. Il a revendiqué des territoires de plus en plus vastes en mer de Chine méridionale. Il a cherché à intimider les amis de Taïwan et écraser le peuple amoureux de la paix de Hong Kong. Il a rendu moins sûres les voies de navigation dans le monde. Et en contrepartie de l'autorisation à opérer en Chine, le Parti communiste chinois a insisté pour que les compagnies occidentales transfèrent leurs technologies à leurs rivales chinoises et demeurent silencieuses face aux horribles violations des droits humains. Alors que les États-Unis ont ouvert les bras aux citoyens chinois, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo, le Parti communiste chinois a envoyé des propagandistes et des espions aux conférences de presse, centres de recherche et universités des États-Unis. Il a dérobé notre précieuse propriété intellectuelle et nos secrets commerciaux, causant la perte des millions d'emplois à travers l'Amérique. Le Parti communiste chinois doit changer, a-t-il déclaré. Il doit commencer à embrasser les objectifs de justice et de réciprocité fixés par le président Trump. Nous devons aussi discuter avec le peuple chinois et l'autonomiser. C'est un peuple dynamique, amoureux de la liberté et distincte du Parti communiste chinois. Pendant trop de décennies, nos leaders ont ignoré et minimisé les propos des courageux dissidents chinois qui nous ont avertis au sujet de la nature du régime auquel nous faisons face et nous ne pouvons plus continuer à l'ignorer. Amener le Parti communiste chinois à changer de comportement n'est plus uniquement la mission du peuple chinois, a déclaré le secrétaire d'État Pompeo. Les nations libres doivent œuvrer pour défendre la liberté. J'en appelle à chaque leader de chaque nation à commencer par faire ce que l'Amérique a déjà fait. Tout simplement insister sur la réciprocité, insister sur la transparence et l'imputabilité du Parti communiste chinois. Pendant longtemps, nous avons laissé le Parti communiste chinois fixer les termes des discussions, mais ce n'est plus le cas. Les nations libres doivent donner le ton. Nous devons opérer sur la base des mêmes principes. Si nous n'agissons pas maintenant, a dit le secrétaire d'État Pompeo, le Parti communiste chinois va éroder en fin de compte nos libertés et va subvertir l'ordre basé sur les règles que nos sociétés ont travaillé dur pour édifier. Sécuriser nos libertés vis-à-vis du Parti communiste chinois est la mission de notre vie.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.